Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche après Pâques, le dimanche in albis, aussi parfois appelé le dimanche de la Quasimodo à cause des premiers mots de l'introïte. Et l'Église, par les textes qu'elle a choisis en ce dimanche, notamment par le texte de l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 20, rappelle nettement les dons particuliers de Dieu pour la fête de Pâques. La fête de Pâques de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ va mettre dans l'âme des fidèles deux choses, la paix et la joie. Les deux signes que l'on retrouve dans toute consolation spirituelle véritable. Au contraire, pendant le Vendredi Saint, le soir du Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint, tous les apôtres étaient dans la désolation la plus complète. Ils étaient dans la tristesse, dans l'obscurité. Ils étaient attirés vers les choses du monde. Ils avaient perdu toute confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec la résurrection et les apparitions successives de notre Seigneur Jésus-Christ vont retrouver cette paix, cette joie. Voilà le texte. En ce temps-là, le soir du même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint, se plaçant au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Vous voyez donc, qu'est-ce qu'amène notre Seigneur ? Notre Seigneur apporte avec lui la paix des cœurs. Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples, se réjouirent donc de voir le Seigneur. Deuxième conséquence de la résurrection de notre Seigneur, après la paix, la joie. Ils se réjouissent. Et donc, puisque nous sommes des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, nous devons avoir cette paix, cette joie. Cette paix, cette joie qui viennent de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, avec la grâce du bon Dieu, être nous aussi en consolation spirituelle. Cette consolation spirituelle qui vient justement des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Par les mérites de sa passion, eh bien, il apporte la paix et la joie au monde. La vraie paix, la vraie joie que seul Dieu peut donner. Au lieu de la tristesse, la confusion, l'obscurité, l'attraction vers le laid qu'on trouve dans le monde, Dieu donne la paix, la joie, la lumière et l'attraction vers le beau. C'est intéressant dans ce cadre-là de lire dans les exercices spirituels de Saint Ignace, ce que dit Saint Ignace de Loyola, le grand général des Jésuites, le fondateur des Jésuites, ce qu'il dit justement sur la consolation spirituelle. Voilà ce qu'il dit dans sa troisième règle du discernement des esprits. « J'appelle consolation, dit-il, un mouvement intérieur qui est excité dans l'âme par lequel elle commence à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur. Il en vient à ne savoir plus aimer aucun objet créé sur la terre pour lui-même, mais uniquement dans le Créateur de toutes choses. La consolation fait encore répandre des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur l'âme touchée du regret de ses péchés ou de la passion de Jésus-Christ notre Seigneur ou de toute autre considération qui se rapporte directement à son service et à sa louange. Enfin, j'appelle consolation toute augmentation d'espérance, de foi, de charité, toute joie intérieure qui appelle et attire l'âme aux choses célestes et aux soins de son salut, la tranquillisant, la pacifiant dans son Créateur et Seigneur. » Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'âme des apôtres, dans l'âme des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ après la résurrection. Ils ont cette augmentation d'espérance, de foi, de charité, cette joie intérieure, cette tranquillité d'esprit qui pacifie tout dans son Créateur et Seigneur. Eh bien, c'est la même chose qu'il faut demander en ce temps de Pâques, mes bien chers amis. Nous aussi, il nous faut demander cette paix, cette joie. Un saint triste est un triste saint. Un catholique triste est un triste catholique. Ça ne veut pas dire que on n'aura plus de problèmes. On peut être dans la joie et la paix de Pâques tout en ayant bien des problèmes sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan de la vie sociale. Dieu n'a pas promis de nous rendre heureux ici-bas, mais dans l'autre monde. Et donc, cette joie et cette paix dont il parle, c'est une joie et une paix centrée bien sûr sur la résurrection de notre Seigneur, mais aussi centrée sur le paradis qui sera nôtre un jour avec sa grâce. Donc on peut très bien être en paix, en joie avec notre Seigneur, être en consolation spirituelle, même si nous avons bien des vicissitudes à vivre dans un monde qui est devenu une vallée de larmes. Oui, c'est un petit peu la même chose dans notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans sa passion, quand il était cloué sur la croix, il souffrait des tortures physiques épouvantables dans son humanité, mais il avait toujours la vision béatifique. Il était toujours le Fils de Dieu. Et il avait cette vision de Dieu, cette vision béatifique de Dieu, parce qu'il était Dieu leur plus lui-même, qui ne supprimait pas toutes les souffrances physiques, parce qu'il a voulu que son corps souffre comme celui d'un homme normal. Alors, il y a dans ce texte de l'évangile d'aujourd'hui un autre point qui me semble extrêmement important. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a déjà ordonné prêtre et consacré évêque ses apôtres le soir du jeudi saint, va attendre de leur donner le complément de leurs pouvoirs sacerdotaux uniquement après sa résurrection et pas avant. On le voit ici parce qu'il est dit dans cet évangile selon saint Jean, choisi par l'Église catholique pour être l'évangile du dimanche in albis. Et voilà ce qu'il est dit. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En disant ces mots, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettez et ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez. Donc Dieu donne à ses disciples, à ses apôtres à ce moment-là, le pouvoir de confesser. Et nous indique indirectement que cette paix et cette joie à laquelle nous devons aspirer en tant que catholiques pour ces jours de Pâques, eh bien, elle va venir justement par le pardon des péchés. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien, il a, par les mérites de cette mort sur la croix, il a obtenu justement l'institution de ce sacrement de pénitence. Tous les sacrements découlent de la croix, comme toutes les eaux découlent de la source. La source de tous les sacrements, c'est la passion, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, justement, grâce à son martyre sur la croix, va donner en quelque sorte à ses apôtres le pouvoir maintenant de pardonner les péchés. Et la meilleure façon d'avoir cette paix et cette joie que nous devons demander pour ce temps pascal, c'est précisément par la confession que nous les aurons. Et si nous ne nous confessons pas régulièrement, quelqu'un qui se confesse jamais n'aura jamais la paix et la joie surnaturelle. Au contraire, quelqu'un qui se confesse bien régulièrement, je parle bien sûr d'une véritable confession, une bonne confession avec l'accusation, avec la contrition et la réparation. Une personne qui fait une bonne confession, surtout régulière, sera toujours en paix et en joie, malgré les croix, malgré les épreuves. Les saints, on le voit très bien, malgré les épreuves terribles qui étaient les autres, qui étaient les leurs, pardon, étaient toujours en état de paix intérieure, en état de joie intérieure. Certes, il y a eu des moments de désolation chez eux, mais ils avaient cette joie de souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ, même si ces souffrances spirituelles, ces nuits, ce qu'on appelle la nuit des sens ou la nuit de l'esprit, étaient pour eux des épreuves terribles. Et donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, par cette fête de Pâques, nous donne le pouvoir de nous confesser, d'obtenir le pardon de nos péchés, nous serions bien, bien bêtes de ne pas en profiter. Pour résumer un petit peu tout ce que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ par son Église, on pourrait dire que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa passion plutôt, le bon Dieu, par sa passion, à la suite de sa passion et de sa résurrection, va nous donner trois choses qui sont étroitement liées. La crèche, le calvaire, et le tabernacle. La crèche, parce que c'est la première conséquence du mystère de l'incarnation, l'union de la nature humaine et de la nature divine dans la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc le premier moment où l'on peut voir déjà cet extraordinaire amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, c'est sur le bois de la crèche. À Bethléem, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaît, après être sorti du sein très pur de sa mère, sans violer la virginité de sa mère, n'oublions pas qu'elle est toujours vierge avant, pendant et après la naissance, eh bien, cet enfant emmailloté de l'ange qui apparaît et qui est présenté à l'adoration des anges, présenté à l'adoration des bergers, présenté à l'adoration des rois mages et finalement présenté à notre adoration à tous, eh bien, cette crèche manifeste déjà l'extraordinaire charité de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. C'est en méditant devant la crèche, en voyant cet enfant qui vagit dans le froid de la crèche, que l'on comprend l'extraordinaire amour de notre Seigneur de Jésus-Christ pour les pécheurs repentants. La deuxième étape, eh bien, c'est le calvaire. Là, c'est encore plus net. Le bois de la crèche représente le bois du calvaire. Et le bois du calvaire, justement, nous indique est encore une preuve supplémentaire, si vous voulez, des conséquences directes de sa naissance parmi nous, dans la crèche de Bethléem. Notre Seigneur Jésus-Christ est né pour mourir. Il n'est pas né pour jouir de la vie. Il est né pour mourir, et pour mourir sur la croix, et pour mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Et nous, prêtres, nous devons prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Si l'on sépare notre Seigneur Jésus-Christ de sa crucifixion pour chacun d'entre nous, on détruit complètement sa miséricorde. Et donc après nous être agenouillés à la crèche pour comprendre l'immense amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, il faut nous agenouiller de nouveau, cette fois-ci au pied de la croix, du Golgotha, au calvaire. Et là, en voyant notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt pour chacun d'entre nous, on comprend encore davantage l'immense amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Il nous aime tellement, on peut le voir, que non seulement il nous donne tout avant de mourir, puisqu'il va nous donner jusqu'à la dernière goutte de son sang, mais en plus de ça, il trouve le moyen, même une fois mort, de continuer à nous donner quelque chose. Une fois mort, qu'est-ce qui se passe? Une fois mort, le soldat Saint Longin, qui va être converti d'ailleurs par ce geste, va ouvrir le côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de l'oreillette droite du cœur, percée par la lance, vont sortir du sang et de l'eau, le sang du baptême et de la Sainte Eucharistie et de la sacrifice de la messe, l'eau des sacrements qui va justement laver les péchés. Et c'est en nous mettant au pied de la croix, un petit peu comme Sainte Marie-Madeleine, comme Saint Jean, comme notre Sainte Vierge Marie elle-même, que nous pouvons mesurer l'extraordinaire amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, qui même une fois mort, continue de nous donner. De nous donner une participation à son amour. Donc la première étape dans notre méditation, c'est la crèche. La deuxième étape, c'est le calvaire. Et la troisième étape, c'est le tabernacle. Elle résume les deux premiers. La crèche et le calvaire conduisent au tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est la présence réelle de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il est vraiment physiquement présent, caché sous l'apparence du pain. Il y a bien sûr les extérieurs du pain, ce qu'on appelle les accidents du pain sont toujours là, mais ce n'est plus la substance du pain qui, elle, a complètement disparu après les paroles de la consécration du prêtre. Ce ne sont plus les la substance, ce n'est plus la substance du pain qui est là, c'est la substance de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et donc, on commence notre voyage, si vous voulez, spirituel à la crèche. La première étape, après, c'est le calvaire. La deuxième étape, c'est le tabernacle. Il faut donc nous agenouiller devant le tabernacle, un peu avec les mêmes sentiments que nous aurions si nous avions pu nous agenouiller avec les bergers à la crèche, les mêmes sentiments que nous devrions avoir avec la Très Sainte Vierge Marie, Sainte Marie-Madeleine, Saint Jean, à genoux au pied de la croix pour recevoir sur nos têtes le sang rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc il faut, à chaque fois que nous assistons à la Sainte Messe, puisque le tabernacle est rempli de notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Messe, sans Sainte Messe, il n'y aurait pas la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle. Donc il nous faut assister à la Sainte Messe avec les mêmes sentiments que nous aurions si nous avions pu assister à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien chers frères, ce qu'il nous faut demander à cette fête de Pâques. Cette paix, cette joie qui viennent de cette manifestation d'amour extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt pour chacun d'entre nous sur la croix du Vendredi Saint et qui renouvelle en quelque sorte son sacrifice chaque fois qu'une messe est offerte. C'est pour cela que le catéchisme traditionnel enseigne que la Sainte Messe, ce n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Donc, la Sainte Messe n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant d'un sacrifice qui a commencé à la crèche, par l'union dans la même personne de notre Seigneur Jésus-Christ, la nature humaine et de la nature divine, qui s'est continuée au calvaire par la séparation sacrificielle entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps étant attaché à la croix et le sang de notre Seigneur ayant été répandu complètement jusqu'à la dernière goutte pendant la Passion. Eh bien, la conséquence de cette crèche et de ce calvaire, c'est le tabernacle. Et le bon Dieu va nous demander d'avoir la même attirance pour le tabernacle que nous devrions avoir pour le calvaire et la crèche. La crèche, elle n'est plus devant nous. Elle a disparu depuis longtemps. Le tabernacle, le calvaire aussi également n'est plus devant nous. Le bois de la croix n'est plus là. Par contre, la messe est toujours là. Alors le bon Dieu nous demande d'utiliser cette messe, même si on l'a une fois de temps en temps. Dieu sait s'il est difficile aujourd'hui de trouver des messes traditionnelles célébrées par des prêtres non unakoum. Mais le bon Dieu vous demande, même si vous avez la messe une fois de temps en temps, remerciez le bon Dieu quand vous l'avez et assistez à cette messe avec l'esprit de la Très Sainte Vierge Marie. Imaginez un peu comment la Très Sainte Vierge Marie devait assister à la Sainte Messe offerte tous les matins par Saint Jean. Elle a vécu avec lui. Elle a vécu avec lui parce qu'elle a été confiée à Saint Jean. « Fils, voici votre mère. Mère, voici votre fils. » Et Saint Jean, dit l'Évangile, à partir de ce jour-là, l'a pris chez elle. Donc il faut demander, en ce temps de Pâques, mes bien chers frères, demandons un grand, grand amour pour la messe. Parce que la messe, c'est le sacrifice du calvaire. La messe, c'est la passion qui se renouvelle. Certes, il y a des petites différences entre la passion renouvelée à la Sainte Messe sur l'autel et la passion qui a eu lieu il y a 2000 ans au calvaire. Mais substantiellement, c'est le même sacrifice. Quelques différences, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Concile de Trente parle d'une différence, par exemple, le fait que la Sainte Messe, pendant la Sainte Messe, il y a une séparation sacramentelle entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a une double consécration, d'ailleurs. Alors qu'au contraire, sur la croix du calvaire, cette séparation sacrificielle est une séparation sanglante. Il y a eu vraiment effusion de sang. Notre Seigneur Jésus-Christ étant maintenant au ciel avec un corps glorieux, il ne peut plus avoir la même effusion de sang, il ne peut plus y avoir un caractère sanglant au sacrifice de la messe. Donc la messe doit être offerte de façon non sanglante, manifestée par la séparation entre le corps et le sang de la double consécration. Même si notre Seigneur Jésus-Christ ne subit pas, si vous voulez, une passion violente, sanglante, comme il l'a subi il y a 2000 ans, c'est néanmoins le même sacrifice. Bon, certes, sur la croix, il s'est également, dit le Saint-Cosige du Concile de Trente, il s'est offert directement, alors que, au contraire, pendant la Sainte Messe, il s'offre indirectement. Mais c'est exactement toujours le même sacrifice, la même victime, le même Dieu, le même corps, la même âme, le même sang, la même divinité. Donc le même amour manifesté pour chacun d'entre nous par sa mort renouvelée sur l'autel. Quel malheur, mes bien chers frères, quel drame de voir que notre Seigneur Jésus-Christ s'offre, s'immole de nouveau à chaque fois que sur la terre est célébrée une messe traditionnelle qui n'est pas en quelque sorte abîmée, salie par l'union avec un hérétique comme François. Mais justement, il faut remercier le bon Dieu et demander au bon Dieu d'avoir les mêmes sentiments d'adoration qui étaient dans le cœur de la Sainte Vierge. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, comment voulez-vous qu'on ait les mêmes sentiments d'adoration? Allez, Immaculée Conception, pas moi, c'est vrai. Mais la Très Sainte Vierge Marie peut vous donner ses grâces. Donc ne pas se décourager. Donc la crèche mène au calvaire, le calvaire mène au tabernacle. Et nous aurons au paradis un degré de gloire qui va correspondre au degré de charité avec lequel nous avons assisté à la Sainte Messe. Strictement parlant, nous aurons une place au ciel qui va correspondre au degré de charité que nous aurons au moment de mourir. Mais le degré de charité que nous aurons au moment de mourir va directement provenir du degré de charité que nous avons avec la Sainte Messe. Si nous savons offrir la Sainte Messe avec paix, avec résignation, avec amour, si nous avons demandé cette paix, cette joie à notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous pourrons puiser dans ce sang rédempteur qui est offert par le prêtre catholique sur l'autel chaque fois qu'il célèbre la Sainte Messe. Mais si nous n'avons pas compris ces choses-là, ouvrons les yeux. Pourquoi croyez-vous que le démon a réussi à abolir pratiquement la messe dans le monde entier à peu de choses près? Le démon a réussi à abolir la Sainte Messe parce qu'il sait que tant que la messe sera là, sera dite, sera offerte, il ne peut pas triompher. Et certains pères de l'Église vont jusqu'à dire que la fin du monde arrivera le jour où la dernière messe sera offerte. C'est sans doute tout à fait exact. Donc il nous faut, mes bien chers frères, demander par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie, parce que c'est elle qui est au pied de la croix, hein, c'est elle qui nous obtient toutes les grâces au pied de la croix, il faut demander à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne cette compréhension, hein, pour que nous puissions vraiment utiliser toutes les grâces qui proviennent des fêtes pascales. C'est l'oraison d'aujourd'hui, fête Dieu Tout-Puissant, qu'arrivé au terme des fêtes pascales, il nous soit donné de les perpétuer dans la conduite de notre vie. Comment est-ce qu'on va perpétuer cette joie et cette paix pascale? Par le sacrifice de la messe. C'est le sacrifice de la messe qui va nous donner la compréhension de toutes ces choses-là. Et c'est redit sous une autre forme dans la post-communion d'aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, faites de ces saints mystères que vous avez institués pour nous venir en aide dans l'œuvre de notre génération un remède pour le présent et un gage d'éternité. Si l'on sait assister à la messe avec les sentiments de dévotion, d'adoration, eh bien la messe devient déjà pour nous une participation directe au paradis. Quelqu'un qui assiste à la Sainte Messe devrait se dire « Je suis au paradis au moins pendant le temps, j'assiste à la Sainte Messe ». Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. C'est ce que dit l'oraison pendant le temps pascal de la Très Sainte Vierge Marie. « Daignez, Seigneur, accorder à vos serviteurs de jouir de la santé de l'âme et du corps. Et par l'intercession de la Bienheureuse Marie toujours Vierge, donnez-nous d'être délivrés des tristesses de la vie présente et de goûter les joies de l'éternité. » Vous voyez, l'oraison indique justement que par la Sainte Messe, par la dévotion de la Très Sainte Vierge Marie, on va avoir cette joie et cette paix, être délivrés des tristesses du monde moderne. Et la délivrance de cette tristesse du monde moderne passe par le Saint-Sacrifice de la Messe, parce que le tabernacle est le point d'arrivée de l'union de la crèche et du calvaire. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.